Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le dimanche des missions. L'Église est, depuis le début, missionnaire. Les apôtres ont bien compris l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, de façon plus claire, après la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ne se sont pas installés confortablement. Palestine, disant, on va s'occuper des Juifs, et puis, voilà, on ne va pas courir au loin, avec tous les problèmes qu'on va rencontrer. Les apôtres sont partis très très loin, pour prêcher l'Évangile, pour renverser les autels des idoles et pour amener toute cette population païenne qui remplissait la terre. Car à l'époque, les Juifs n'étaient qu'une portion réduite de l'humanité. Les païens étaient beaucoup plus nombreux. Et vous le savez, tous les hommes sont appelés au salut éternel. Chaque être humain est appelé au salut éternel. Donc le devoir des prêtres, eh bien, c'est de se tourner vers tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur condition sociale, quelle que soit leur couleur de peau, etc. Et je vous le disais, l'Église a accompli cette mission au cours des siècles. Il y a eu des congrégations qui ont été fondées, le Père Gaillard en particulier, à qui nous devons ce groupe de résistance à Rennes, eh bien, a été l'un de ces missionnaires en Afrique. Bon, ben, d'autres sont partis en Amérique du Sud, d'autres sont partis en Asie, mais beaucoup sont partis en Chine aussi. Oh là là! Ils en ont vu, hein, en Chine. On ne s'imagine pas. Certains disent, ah ben, ils ont vu du pays, ils ont rencontré notre culture, ça devait être assez sympathique, quoi. Oui. Vous savez, quand vous arriviez là-bas chez des sauvages, il y en a beaucoup qui ont, avant de pouvoir commencer à faire de l'apostolat, eh bien, qu'on subit toutes sortes de tortures, et qui sont morts. Ils sont morts martyrs, hein, de leur devoir de missionnaires. Et la mission des prêtres en général, particulièrement donc de ces missionnaires qui sont partis en Afrique ou ailleurs, c'est d'abord d'enseigner. C'est d'abord d'enseigner. Apprendre à ces ignorants, c'est pas propos péjoratifs à leur égard. Enfin, il faut constater la réalité. Aujourd'hui, où on tire à boulet rouge sur la colonisation, sur les missionnaires, il faut être objectif et dire comment vivaient ces peuples, d'Afrique ou d'ailleurs. Certains en étaient encore au cannibalisme. Et si les missionnaires n'étaient pas arrivés, et si les Occidentaux, disons, ils y seraient peut-être encore. Ça, on oublie de le rappeler. Donc la première des choses, c'est que les missionnaires vont enseigner ce peuple. Dans divers domaines. Bien sûr, leur mission première, ça va être l'évangélisation. Leur faire distinguer le bien et le mal, leur apprendre les commandements de Dieu, mais aussi, sur le plan temporel, eh bien, ils vont leur apprendre un certain nombre de choses, les constructions de routes, de structures, maisons et autres, hein. Donc le champ était très vaste au niveau de l'enseignement. Mais évidemment, ils ont été aidés par par des architectes et toutes sortes de personnes qui venaient de métropole, essayant eux-mêmes de se cantonner dans leur domaine propre, qui était l'instruction religieuse de ces peuples. Et très souvent, évidemment, il y avait une opposition au départ, car avant l'arrivée des prêtres, ben, c'était les sorciers. Hein. Les sorciers, enfin, je parle de l'Afrique, ou les chefs de d'autres fausses religions qui dominaient. Donc il y a eu une rivalité. Mais on ne s'est pas cantonné au domaine de l'enseignement. Il n'y a pas eu l'affrontement uniquement de l'enseignement chrétien, et puis si c'était les musulmans, ben, l'enseignement de l'islam et tout ça. Évidemment que la vérité doit l'emporter. Mais il y a eu aussi ce que les autres n'avaient pas, évidemment, si on parle de l'islam ou si on parle de bouddhisme ou d'autres choses. Il y avait toute la sainteté de l'Église et la mission des prêtres aussi, essentielle, c'est la sanctification du peuple. Donc une des premières choses que faisaient les prêtres missionnaires lorsqu'ils arrivaient, c'était de construire un petit abri bien, bien humble, pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. Parce que on célébrait le Saint-Sacrifice de la Messe dans ce qu'on pouvait construire, une petite case, et le Seigneur était là. Et à partir du moment où le Saint-Sacrement est quelque part, il rayonne par sa puissance. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en Europe, et c'est devenu, les pays d'Europe sont devenus des pays de mission. Le Saint-Sacrement est loin d'être partout comme autrefois. Autrefois, dans chaque paroisse, il y avait le Seigneur dans l'Église. Aujourd'hui, on l'a fait partir. On a bien manigancé les choses en faisant croire que c'est toujours la messe, mais ce n'est plus le Saint-Sacrifice de la messe, et donc il n'y a plus la présence réelle dans les églises modernes. Le Saint-Sacrement reste là où il y a encore un sacerdoce valide et où la messe de toujours est célébrée. Mais vous pouvez voir un petit peu comment c'est dans telle ville, plus ou moins importante, il n'y a plus dans les villages. Le Seigneur qui est, entre autres, dans notre tabernacle, il n'est pas uniquement dans notre tabernacle ici à Rennes, eh bien, rayonne sur toute cette ville de Rennes. Protège, d'une certaine façon, la population de Rennes. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Même si le peuple païen ou athée, tout ce que vous voulez, s'en moque, le Seigneur est là. Et quand, en Afrique, ces peuples qui n'étaient pas encore convertis avaient chez eux, dans une case, le Seigneur, eh bien, ça agissait aussi, mystérieusement, sur eux pour les attirer à la vérité. La présence réelle, la présence du Seigneur, c'est très important. Et donc, les missionnaires vont petit à petit, tout en les enseignant, les approcher du tabernacle, leur faire comprendre que le Seigneur, eh bien, veut venir aussi dans leur cœur. Mais pour venir dans leur cœur, il faut qu'ils quittent une vie de désordre et de péché, qu'ils aient une vie morale correcte. Ça, c'est la sanctification du peuple que les missionnaires doivent accomplir. Et puis, il y a aussi gouverner. Alors évidemment, les missionnaires qui sont partis, ils ne sont pas partis de leur propre chef comme ça, tiens, je vais aller me promener là-bas en Afrique ou en Asie, je vais faire ma petite église. Non, non. À l'époque, il y avait la hiérarchie. Aujourd'hui, il n'y a plus la hiérarchie, mais à l'époque, il y avait la hiérarchie. Et donc, ils avaient des comptes à rendre à leur évêque, bien sûr, et à Rome. Et de ce fait, ils avaient une juridiction, un pouvoir de commandement dans l'Église qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, nous n'avons plus. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la mission, mais nous n'avons plus la cession, c'est-à-dire ce pouvoir de magistère qui, normalement, revient à l'Église constituée de façon hiérarchique. Vous descendez jusqu'au bas des échelons, les prêtres, et puis vous montez, l'évêque, le cardinal, tout ça. C'est la crise. Certains diraient, puisqu'il n'y a plus cette juridiction dans l'Église, stop, on arrête là, on ne fait plus rien. Débrouillez-vous, dites votre chapelet, restez chez vous. Certains ont cette position-là. Ça n'est pas la nôtre. Car il nous semble qu'il est tout à fait nécessaire de continuer à enseigner le peuple, à donner les sacrements en attendant la fin de cette crise terrible et cette restauration de l'hiérarchie. Quand il y a eu des grandes crises, comme la crise de la papauté, où on ne savait pas trop qui était le pape, il y en avait deux, il y en avait jusqu'à trois, il y a eu le pape de Pise, eh bien, l'Église a continué. Les prêtres n'ont pas dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Alors on ne sait plus quel est le vrai pape, bon ben, débrouillez-vous, nous on arrête. Hein. On ne sait plus à qui obéir. Non, non, ils ont continué à baptiser, à marier, à faire les enterrements. Voilà. Il y a pour le reste, ben, Seigneur, clarifier la situation, mais on ne peut pas laisser le peuple sans les sacrements. Donc aujourd'hui, eh bien, dans la crise que nous traversons, il faut continuer comme l'Église a toujours fait dans ce domaine-là. Et bien sûr qu'il nous faut prier plus que jamais pour qu'il y ait des vocations pour aller évangéliser. Et il y aura même, dans quelques années, il n'y aura même pas besoin d'aller en Afrique ou d'aller en Asie. La France sera une terre d'évangélisation. On trouve très fréquemment des jeunes de 20, de 30 ans qui n'ont pas été baptisés ou bien qui sont devenus athées. J'ai rencontré un hier encore, à cause des études. Voilà. Vous savez, faire des études aujourd'hui dans les écoles de l'État, c'est vraiment un double tranchant. Hein. Bien, évidemment, on ne va pas faire de nos enfants uniquement des éboueurs. Encore que pour ramasser les poubelles, il faut sûrement un diplôme. Pour prendre un balai, il faut un diplôme maintenant. Et un chiffon. Mais il y en a qui ont des capacités intellectuelles. C'est tout à fait légitime de les faire étudier. Mais, je vous le redis, c'est à double tranchant. Et il y en a beaucoup qui perdent la foi. Perdant la foi, ils perdent aussi la moralité. Parce que ça suit, inévitablement. En fréquentant ces écoles qui sont sans Dieu. Non seulement qu'ils sont sans Dieu, mais qu'ils sont contre Dieu. Contre Dieu. Parce que derrière tout ça, il y a tout le clan des francs-maçons. Ils font semblant aujourd'hui de dire « Ah, mais nous ne sommes plus opposés à l'Église, ça va, ouais. C'était autrefois, il y avait ce conflit. » C'est toujours les mêmes principes. L'Église, je ne parle pas des modernistes, je parle de l'Église de toujours. L'Église de toujours n'a pas renié un seul de ses dogmes et de ses principes. Et la clique franc-maçonne, ils n'ont pas renié non plus leurs idées. Donc nous restons en opposition radicale, même si aujourd'hui, voilà, l'Église, évidemment l'Église moderniste, qui n'est pas l'Église, ils font ami-ami avec tout le monde, et en particulier avec les francs-maçons. Donc, oui, notre terre, aujourd'hui, eh bien, est devenue une terre de mission. Car l'apostasie se généralise. Non seulement les jeunes, mais même des anciens, en arrivent à perdre la foi. À force, que voulez-vous, d'être connectés, comme on dit, avec le monde d'aujourd'hui. Tous les moyens de communication, et puis la fréquentation dangereuse de ce clergé moderniste. Alors prions Notre-Dame qu'elle nous aide à être fidèles, à persévérer et qu'elle nous obtienne la grâce d'avoir de nombreuses vocation pour travailler à la vigne du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.